Très bien, bon, je vais débuter avec une présentation pour expliquer un peu les concepts, parce que c'est quand même bien de savoir un peu ce qu'il y a derrière. Donc par rapport au profil, je vais pas être super technique, mais bon, s'il y a des détails techniques qui vous intéressent, je pourrais les donner. Voilà, donc commençons par le premier point, on va parler un peu de ces SQL. On va voir qu'écrire des requêtes SQL, c'est pas toujours facile. Donc ça serait bien de faire, si on pouvait faire des requêtes Sparkle à la place, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais essayer de motiver à l'approche, pourquoi on en vient à faire du Sparkle au-dessus de base de données relationnelles. Donc, on va commencer par ça, puis après on verra plus les différents standards qui sont impliqués. Donc aujourd'hui, on va utiliser des ensembles jouets, ça va être des petites bases de données, mais un peu miniatures. En fait, on va avoir deux systèmes d'information d'université, donc, avec quelques tables, donc juste deux petits extraits de systèmes d'information d'université. Donc, commençons par celui de l'université numéro 1. Donc, on a une table qui décrit les étudiants, donc, qui donne leur nom, leur prénom, puis bien sûr l'identifiant des étudiants. On a une autre table pour le personnel académique, donc pareil, nom, prénom, et puis on a aussi des codes, des nombres magiques spécifiques à l'université numéro 1 pour dire, par exemple, le code numéro 1 correspond à un professeur d'université, le 9, je pense que ça va être un postdoc ou quelque chose comme ça. Donc on a un certain nombre de codes utilisés. Donc ces personnes peuvent, le personnel académique peut donner des cours. Donc on a déjà une table qui décrit les cours qui sont enseignés ici. Donc on a un identifiant pour les cours et on a l'intitulé du cours. Et pour faire le lien entre le personnel enseignant et les cours, on a une table dédiée à ça, qui est pour la relation. Parce que un enseignant peut donner pas mal de cours et pour un seul cours, il peut avoir plusieurs enseignants. Donc pour avoir une relation NN, on est obligé de... Généralement, quand on fait des bases de données normalisées, on a une table dédiée à cette relation. Donc on a ici, on a la table Teaching. Donc voilà, pour l'instant, on a quatre tables. Donc ce n'est pas une base de données super compliquée. Mais bon, c'est un début. Alors imaginez que vous êtes un utilisateur et vous avez des besoins d'informations. Donc on va voir. Donc vous avez votre besoin d'informations. Et si vous voulez avoir une réponse pour ce besoin d'information, il va falloir écrire une requête SQL parce qu'il n'y a pas d'autre système pour l'instant. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé par connaître le nom et le prénom des étudiants, vous voyez qu'il y a une table étudiants. Ça tombe bien. Juste à récupérer les deux colonnes. Requête hyper simple. C'est parfait. Après, si vous voulez récupérer le nom et le prénom de toutes les personnes liées à l'université, c'est un peu moins direct parce qu'il n'y a pas de table personne. En fait, il faut savoir que... Les personnes, on va les trouver dans deux tables, dans la table étudiant et dans la table personnel académique. Puis, il pourrait bien entendu avoir d'autres tables pour le personnel technique, etc. Donc déjà, on voit que la requête est un peu plus indirecte. Il se décompose en deux sous-requêtes. Et après, on veut connaître le nom des cours et le nom des enseignants qui donnent ces cours-là, le nom de famille. Là, c'est déjà bien plus compliqué parce qu'il faut... On est obligé de requêter au moins trois tables. Parce qu'il faut aller récupérer dans la table cours pour avoir l'intitulé du cours. Il faut aller dans la table académique pour récupérer le nom du professeur. Et puis il faut faire une jointure entre ces deux tables et la table intermédiaire qui est la table teaching. Donc là, on a deux jointures entre trois classes. Donc voilà, donc ça, pour une requête comme ça, c'est déjà beaucoup plus indirect. Et puis bon. Vous voyez qu'il faut bien connaître la structure du schéma pour faire cette requête-là. Il faut bien savoir que dans cette université, on modélise les choses de cette façon. Parce que voilà, on verra tout à l'heure, ce genre de requête, on peut l'écrire différemment avec d'autres schémas. Et la dernière requête, c'est on veut connaître le nom de tous les enseignants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un enseignant? Déjà, il y a des gens qui sont enseignants par statut, tous les enseignants-chercheurs. On peut aller voir tous ceux qui ont un code qui correspond à maître de conférence, à professeur d'université, etc. Et il y a d'autres personnes dans le... Donc on peut voir ça par leur statut. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, comme des postdocs, on ne sait pas s'ils enseignent ou pas. C'est, par leur statut, ne sont pas tenus d'enseigner, mais peut-être qu'ils enseignent. Donc pour savoir s'ils enseignent, il ne suffit pas juste de regarder la table académique et regarder les statuts, il faut aller voir s'ils sont présents dans la table teaching, si concrètement ils enseignent un cours. Donc voilà, donc là on combine des logiques un peu différentes. Vous voyez que pour un besoin d'information qui s'exprime en trois mots, tous les enseignants, la requête SQL, il y a quand même pas mal de détails à connaître pour faire la requête SQL. Imaginez maintenant qu'on veut l'intégrer avec une deuxième source de données, qui est le système d'information d'une autre université, et comme c'est une autre université, elle est indépendante, elle a un autre système d'information, un autre schéma. Il se trouve qu'elle modélise le même genre d'information en deux tables. Et il se trouve qu'en fait, elle a même plus de précision dans ces deux tables. Alors, elle a une table personne, donc pour que ce soit des étudiants ou des personnels académiques qui sont mis dans la même table, on a le nom et le prénom ensemble, et on distingue les enseignants et des autres personnes par rapport à leur statut. Donc, je crois que 1, ça doit être un étudiant en licence, 2, ça doit être un étudiant en master, et puis le reste, ça peut être des enseignants, des post-docs, ou ce que vous voulez. Et après, donc, on a une autre table, le table pour les cours. Donc pour chaque cours, par rapport à dans cette université, il y a à la fois une personne qui donne les cours magistraux, et une personne qui donne les TP. Ça peut être la même personne, mais en tout cas, il y a deux rôles pour chaque cours, seulement deux rôles. Donc du coup, là, on n'a plus besoin d'avoir une table, c'est plus une relation NN. Là, voilà, c'est, pour chaque cours, il y a deux personnes, enfin, potentiellement deux fois la même, qui sont liées à ça. Et donc là, on a un peu plus de précision, d'ailleurs, parce qu'on ne dit pas simplement que cette personne enseigne, mais on dit quel est son rôle dans l'enseignement, donc si elle donne des cours magistraux ou si elle donne des TP. Donc voilà, donc, on en revient à l'étape d'avant. Donc, maintenant, on a toujours les mêmes besoins d'informations. On veut avoir les mêmes informations. Par contre, maintenant, on n'interroge plus une seule base de données, on en interroge deux. Et vous voyez que forcément, la requête SQL elle gagne en complexité. Les besoins d'informations sont exactement les mêmes, mais la requête SQL est plus compliquée. Donc on reprend celle de tout à l'heure et puis on rajoute une deuxième sous-requête. Donc, par exemple, pour le nom et le prénom des étudiants, maintenant, il faut récupérer toutes les personnes qui ont le statut 1 ou 2. Par contre, certaines autres requêtes sont un peu plus simples comme pour les personnes, parce qu'on a une table directement personne. Donc l'autre sous-requête est un petit peu plus simple dans ce cas de figure. Et vous voyez que maintenant, ça se complique un peu plus pour ces requêtes-là, parce que quand on récupère le titre et le titre du cours et le nom du professeur, donc dans un cas, il y avait une jointure entre trois tables, maintenant il y avait deux jointures entre trois tables, et là maintenant il y a juste une jointure entre deux tables. Donc il faut connaître tous ces petits détails. Et pour retrouver les enseignants, c'est soit les gens qui donnent le cours magistral, ou soit d'autres personnes qui donnent les TP. Et la dernière. Donc pour récupérer tous les enseignants, pareil, il faut dans la table de la source numéro 2, et il faut aller voir les gens qui apparaissent dans la table cours, soit en tant que conférencier, soit en tant que quelqu'un qui donne les TP. Et pareil, il y a encore les statuts à prendre en compte qui sont avec d'autres codes. Et puis en plus, on veut récupérer les identifiants des personnes. Alors la personne numéro 1 de l'université 1, ce n'est pas forcément la même personne que la personne numéro 1 dans la seconde université. Donc là, il faut commencer à désambiguiser l'origine des personnes. Donc là, on commence à construire des identifiants un peu plus globaux en rajoutant des chaînes de caractères, etc. pour désambiguiser. Voilà. Donc là, au final, on n'a que 6 tables. On voit déjà que le SQL commence déjà à devenir non trivial. Alors imaginez maintenant dans un cas d'usage industriel où, par exemple, on travaillait dans le cadre de projet optique, un projet qui s'est terminé en décembre, où un de nos partenaires, c'était Statoil, donc c'est un géant pétrolier norvégien. Et le cas d'usage qu'ils nous avaient rapporté, c'est qu'ils ont des utilisateurs qui sont pas des informaticiens, qui sont des géologues ou des géophysiciens. Et leur boulot, c'est de construire des modèles du sol, des modèles stratigraphiques. Et pour ça, forcément, ils ont besoin d'accéder aux données des précédentes campagnes, de tout l'historique des forages et compagnie qui a été fait autour de la Norvège. Et ça, ils vont le trouver dans plusieurs sources, mais principalement une source qui s'appelle EPDS, Exploitation and Production Data Store, qui est une base de données Oracle, une seule, mais avec plus de 1500 tables, donc qui est d'une complexité horrible. Tout simplement parce que, de ce que j'en ai compris, c'est qu'ils font des campagnes, voilà, il y a une campagne qui a été faite à l'année, voilà, ils vont faire les mesures, après ils vont les stocker dans les tables, après ils vont faire une nouvelle campagne, ils vont vouloir avoir un chemin différent, donc ils vont avoir de nouvelles tables, etc. Donc, vous avez plus de 20 ans d'historique, forcément vous avez beaucoup d'hétérogénéité, à partir du moment où tout n'est pas, les choses ne sont pas complètement unifiées, donc voilà, vous avez vraiment l'hétérogénéité historique. Et ces pauvres, les géologues et les géophysiciens, les besoins qu'ils ont, ils ont besoin de récupérer ces informations dans toutes ces tables. Sauf que leur boulot, c'est vraiment, ils ne sont pas des experts en informatique, donc avec le SQL dans leur cas de figure, c'est juste pas possible, quoi. Même pour les informaticiens qui, donc ils sont aidés par les informaticiens qui eux-mêmes ont des difficultés pour ça. Donc comment ça fonctionne traditionnellement dans cette entreprise, donc, bon, je précise que ces modèles-là, c'est vraiment très très important pour l'entreprise. C'est parce que ça les aide à savoir où ils vont pouvoir mener des campagnes d'exploration. Et ça leur coûte très, enfin, les campagnes d'exploration, ça coûte cher. Donc, ils font beaucoup d'études en amont. Et voilà, ça, c'est au cœur de l'activité. C'est vraiment, c'est pas quelque chose d'annexe. Donc, ils mettent beaucoup d'argent dans ce process. Dans ce processus, et la version actuelle, enfin la version traditionnelle, c'est le géologue qui va écrire un mail. Alors lui, il sait très bien ce qu'il veut, donc il va pouvoir utiliser la terminologie de son domaine de manière bien précise. Il va dire voilà ce que je veux comme information, parce que souvent ils ont un catalogue de requêtes prédéfini, mais ça leur suffit pas tout le temps. Ils ont souvent besoin de nouveaux besoins d'information, ils ont besoin de nouvelles requêtes, et donc du coup ils sont obligés de demander un expert, un administrateur de base de données, de leur écrire la requête qui va bien. Donc, ils sont obligés de la décrire par mail. Et vous imaginez bien que ça prend quelque temps à l'expert en informatique de faire d'écrire cette requête SQL. Alors, d'après vous, quel est le temps moyen, sachant que c'est très important pour eux, ils ont un bon budget là-dessus. Combien de temps met en général un expert pour écrire une requête SQL? Ouais.
Ça dépend de l'expérience.
Mais en moyenne, parce que ça, évidemment, je pense que là, je pense pas que ça soit au niveau là normal ou je ne sais quoi. Mais...
Si ça porte sur plusieurs années d'exploration,
c'est le temps d'écrire la requête. Voilà, je crois que c'est en moyenne 4 jours. Et je crois que c'est bien, c'est un bon temps, parce que j'imagine dans plein d'autres entreprises, ça prendrait des semaines. Bon, d'un point de vue interactivité, c'est pas le top, quoi. Mais bon, ils survivent avec ça. Donc pour tester une hypothèse rapidement, c'est pas génial. Et encore, c'est quand il n'y a qu'une seule source, si vous voulez rajouter des sources. Donc voilà, donc ils étaient très intéressés par notre projet, donc ils sont partie prenante dedans. Et nous, ce qu'on leur alors typiquement, pourquoi ça prend beaucoup de temps, c'est que les requêtes SQL là, sont juste... c'est illisible, quoi. Voilà, elle est anonymisée, donc ça rend encore plus illisible, mais c'est des requêtes SQL qui font des pages, généralement. Donc, je crois qu'ils sont même plus capables de les écrire à la main, ils sont obligés d'utiliser des outils, enfin, c'est un peu du bricolage. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à la complétude de leurs résultats, enfin, voilà, ils ont peut-être manqué pas mal de choses. Je ne sais pas comment ils les débuguent, mais en tout cas, ils passent du temps dessus. Ouais. Voilà, alors, donc, pour revenir à notre problème, donc, selon moi, quel est le problème ici, vraiment? En fait, ce qu'on peut se rendre compte en pratique, c'est qu'il y a un fossé sémantique, un gap sémantique, je ne sais pas comment bien dire en français, entre le passage des besoins d'information en une requête qui peut être exécutée automatiquement, une requête qui... formellement bien défini. Donc ici, c'est la requête SQL. Entre le besoin d'information, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'entre le besoin d'information et la requête SQL, ça peut avoir une sacrée distance. Et puis, plus vous avez de sources, plus cette distance augmente. Voilà, donc dans tous les problèmes d'intégration de données, c'est vraiment un énorme problème. C'est que, voilà. Et à partir du moment où il y a une grande distance, bah là, on a besoin de... Enfin, il y a beaucoup de travail pour faire le lien entre les deux, faire cette traduction. Il faut beaucoup d'expertise, et c'est embêtant. Donc, en fait, pour pouvoir faire une telle traduction, il faut connaître beaucoup de détails par rapport aux sources de données. Il faut avoir beaucoup d'informations sur les sources de données. Par exemple, on a vu qu'il y avait des nombres magiques, comme 1 et 2, 3, 4, qui ne voulaient pas dire la même chose dans une base de données et dans une autre. Il faut savoir comment a été normalisée la base de données. Donc, savoir que dans telle université, on considère que pour un cours, on ne sait pas le nombre de personnes qui vont intervenir, alors que dans une autre, il y a deux rôles uniquement. Donc, du coup, ça a des implications sur la façon dont on structure les données. Et puis, ça arrive assez souvent que les mêmes informations soient dispersées dans plein de tables, donc, même dans une seule source. Voilà. La cardinalité, il faut la connaître.
Ouais, mais si on a une convention de nommage, c'est pas difficile de la tenir dans la table.
Est-ce que c'est pas difficile?
Il faut juste avoir une règle pour décider que l'étape qui sert à faire l'éventualité dans les appels trucs, l'étape qui sert à faire.
Mais quand vous avez deux systèmes d'information, les choix qui ont été faits dans l'un, ils ne sont pas forcément les mêmes dans l'autre. Par contre, ils ont peut-être le même genre d'information. Donc ça, il faut savoir, c'est des détails. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en tant qu'utilisateur, en fait, vous n'avez même pas besoin de savoir ça. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut permettre aux utilisateurs, c'est, comme ce sont des consommateurs, ils ne sont pas dans la problématique de produire les données, donc ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails qu'un producteur devrait connaître. Et c'est ce qui facilite l'accès, notamment à plein de sources de données qui sont gérées par plein de gens différents. Et donc, du coup, on veut s'abstraire de toutes ces connaissances. On veut avoir le moins de connaissances possible et... Par contre, on veut quand même avoir des requêtes vraiment précises. C'est pas la recherche dans Google avec le texte, c'est la recherche. C'est des requêtes qui sont formelles, comme du SQL. Donc voilà, il y a plein de détails à connaître. Donc, quand les bases de données sont bien gérées, que tout est bien intégré, c'est beaucoup plus facile. Mais avec l'âge et le legacy, la complexité elle vient de partout. Donc à un moment donné, c'est très courant d'avoir affaire à des bases de données qui sont... On a perdu le contrôle de la complexité. Donc, ça arrive souvent. Et voilà. Et puis quand on intègre les sources, tout ça devient un peu plus important. Et pour utiliser les buzzwords, j'ai sûrement entendu, mais sur le big data, ça fait 5-6, plein mal d'années qu'on entend parler. Ils parlaient surtout de velocity, volume et ce genre de choses. Maintenant, ils se rendent compte que depuis un an et demi, que la variété, c'est un gros problème. Mais ça... Ça, je pense que même maintenant, depuis l'année dernière, ça c'est devenu beaucoup plus clair. Donc, quand on est face à un problème comme ça, comment se débrouille-t-on de manière générale, pas juste avec notre approche, mais l'idée que ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils rajoutent une étape dans le processus. L'idée, c'est qu'on va vouloir, comme le fossé sémantique entre la traduction des besoins d'information en une requête qui est formelle, donc qui peut être exécutée automatiquement par un système informatique. On cherche à la réduire. Donc, ça, en fait, la stratégie, c'est de permettre d'écrire des requêtes de haut niveau, c'est-à-dire des requêtes qui soient vraiment proches des besoins de l'utilisateur. De sorte que ce que cette traduction, passage de besoin d'information à cette requête de haut niveau, soit très facile. Et quand c'est facile, soit c'est l'utilisateur qui écrit directement la requête lui-même de haut niveau, s'il connaît la syntaxe, soit il utilise une interface graphique. Et puis, éventuellement, il utilise un expert, mais l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin d'un expert entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est la grande vision abstraite. Alors après, on a les sources de données, il faut qu'on en fasse quelque chose. Alors comment on le fait? En pratique, il y a plusieurs choix possibles. Donc le choix numéro un, c'est comment on dérive... l'information dans des sources de données, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait un process ETL, donc on extrait les informations des sources de données, on les transforme, on les charge quelque part, ailleurs, dans un entrepôt de données, quoi, parce que très typique dans les entreprises quand ils veulent faire de l'analytique. Par exemple, votre banque, souvent, enfin, traditionnellement, les banques, tous les soirs, ils récupèrent toutes les données, ils les stockaient dans une base de données, dans un entrepôt de données, ils faisaient des requêtes analytiques dessus, et puis voilà. C'est le processus ETL qui est actuellement... dans les bases de données, de manière générale, ça reste encore dominant. Dans le monde RDF, le monde du web sémantique, c'est encore ultra majoritaire. Je pense que ceux d'entre vous qui ont vu d'autres conférences cette semaine ont surtout entendu parler d'ETL, peut-être pas dit comme tel, mais en tout cas, c'était l'idée. Hein, c'est, j'ai mes données, je les charge dans mon triple store, et après, je les charge en Virtuoso dans d'autres systèmes, et après, j'interroge directement cette source. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt l'autre approche où les données restent dans les sources de données, on ne les déplace pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va avoir une vue virtuelle de ces données. En fait, notre boulot, ça va être de transformer, de réécrire la requête de haut niveau en une requête supportée par la base de données. Est-ce que c'est clair? Ça vous parle, ce genre de choses ou pas? Est-ce que c'est... Ça, je pense que vous devez connaître l'ETL. Ça, je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup. C'est moins répandu, ce genre de choses. Mais nous, c'est au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on va faire.
Dans
le monde de la zone, est-ce aussi de la médiation ou du brokering aussi? Médiation, on peut parler d'interjugiciel aussi, ça marche. Brokering, ça, j'utilise jamais, mais ça, j'ai vu cette semaine, ouais, ça revenait...
Dans la deuxième vision, on ne persiste pas. Quoi.
Exactement.
On ne fait que transformer à la volée. Quoi.
Exactement, à la requête, c'est exactement ça. C'est vrai que souvent, nous, on parle plutôt de matérialisation.
Oui, voilà.
Mais ETL, c'est la version industrielle. C'est la même chose. On matérialise ici les données dans un schéma cible, target, et là, on ne les matérialise pas, on fait la réécriture de requête. Exactement. Et c'est le slide après. C'est parfait. Donc après, comment on représente ces données après transformation virtuelle ou pas, ou réellement physique? Donc majoritairement, notamment dans les data warehouses, ils sont avant tout relationnels. Hein, tous les ANA et compagnie, Teradata et compagnie. Donc souvent, les gens qui font l'intégration de données de manière classique, généralement, le résultat, c'est de nouvelles tables donc, qui sont censées unifier. Bon, ça a des problèmes, enfin, c'est pas ultra souple. Après, vous pouvez le faire dans d'autres formats, je pense que c'est moins courant, mais vous pouvez a priori le transformer en JSON, en XML, si ça vous plaît. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller vers RDF. En notre cas, ce serait du RDF virtuel, parce qu'on ne matérialise pas. Et quand vous utilisez RDF, votre langage de requête, c'est Sparkle. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va... Oui.
Ton approche, c'est l'approche équivalente
à celle de l'ARQ. Alors, Ort OML, on l'utilise, c'est un langage de mapping. Ouais. Je vais leur expliquer. Effectivement, ça, on l'utilise, on le supporte en entrée. D2RQ, c'est un des ancêtres d'un tab, en quelque sorte, fait par d'autres gens, mais oui. C'est le premier système de ce type-là. Bon, après, D2RQ est plus maintenu, il n'y a pas assez d'optimisation pour être performant, mais l'idée, c'est exactement la même. C'est la même, et voilà. Après, bon.
Mais du coup, ça vaudra le coup que tu nous dises qu'est-ce qui est amélioré par rapport à l'approche de D2RQ.
Nous, on va pour intégrer des ontologies, et surtout, on fait beaucoup plus d'optimisation. Ce qui manque dans DTRQ, c'est qu'il n'y a pas assez d'optimisation, et s'il n'y a pas assez d'optimisation, l'approche n'est pas viable. Par contre, il y a bien l'optimisation, on a vraiment des requêtes SQL similaires à ce qu'un expert écrirait rapidement, sans jouer à contourner le planificateur. S'il va dans le détail de bas niveau où il cherche à contourner le planificateur de requêtes, parce qu'il ne fait pas les requêtes qu'il veut. Bon, ça, on ne peut pas le faire, évidemment, mais tant que quand il se contente d'écrire une requête SQL efficace purement déclarativement, on doit arriver à un résultat similaire dans beaucoup de cas de figure. C'est ce qu'on cherche à faire. Mais si on ne fait pas assez d'optimisation, je pourrais en parler un peu tout à l'heure, les requêtes sont rapidement inefficaces. Il y a plein de choses un peu artificielles qui se passent. Et mon DTRQ, ils n'étaient pas allés très très loin. Voilà. C'est plus une preuve de concept. Et après, ils sont passés à autre chose. Et puis, c'est pas des, je ne pense pas que c'était des experts en base de données. Mais l'idée est bonne. Et puis, c'est ce qui a abouti à RetourML. Enfin, voilà, c'est point de vue recherche, c'est un bon travail. Ouais. Voilà. Ça va ? Ouais ? On parle ? Voilà, notre système, voilà l'approche OBDA que je cherche à défendre aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui combine les deux. On a une vue virtuelle, on utilise une vue RDF virtuelle, on voit notre base donnée comme un graphe RDF, mais virtuellement. Et puis, on utilise RDF comme représentation de données. Et donc, concrètement, ça veut dire que c'est un système, donc l'utilisateur, bon, nous, on va commencer directement à cette étape-là. Donc, en tant qu'utilisateur, on n'a pas le médiateur numéro un, ce sera nous-mêmes. On va écrire directement les requêtes Sparkle nous-mêmes. Après, par exemple, dans notre projet optique, on avait développé une interface graphique et ce genre de choses. Bon, là, on n'aura pas le temps de manipuler ce genre de choses aujourd'hui. Mais c'est possible, hein, on peut ne pas avoir à écrire Sparkle soi-même. Donc, pour beaucoup d'utilisateurs, c'est vraiment important. Et... voilà, donc c'est un système qui reçoit une requête Sparkle en entrée, génère une requête SQL en sortie, enfin, génère une requête SQL, la donne à la base donnée, récupère les résultats de la base donnée et les transforme en résultats Sparkle. Voilà. Donc ça apparaît comme un point d'accès Sparkle pour l'utilisateur. Voilà. Ok, bon. Est-ce que vous connaissez les standards RDF, Sparkle Ça vous parle ? Ouais. Je fais un mini récap ou pas ? Non ? Ok, bon, c'est bien. Bon, si vous savez qu'RDF, c'est des sujets prédicats objets, c'est juste des triplets, c'est sujet verbe complément, c'est des atomes d'information qu'on ne peut pas découper plus que ça. Et que, voilà, donc vous savez déjà beaucoup de choses. Si vous savez qu'en plus, on utilise des URL, parce qu'on veut... C'est une technologie massive d'intégration, on peut le voir. Normalement, c'est l'intégration à l'échelle du web. C'est bien ambitieux. Mais donc, du coup, les identifiants. Dans les bases données, on a des identifiants qui sont des clés primaires, souvent. C'est des identifiants locaux. Donc, 1, ça veut dire quelque chose pour telle table, mais quand on va dans une. Évidemment, ces identifiants sont locaux à une base de données, mais quand on est dans d'autres bases données, ces identifiants n'ont plus aucune valeur. Il y a des risques de conflit. Donc, pour éviter tous les risques de conflit, on utilise des URL. Comme ça tout devient explicite. Pareil pour les propriétés, hein. Quand on dit prénom, là on précise prénom défini par telle entité, donc avec une URL, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ces chaînes de caractères, etc. Quoi. Donc, si vous êtes familier avec ça, ça va bien. Donc en fait, un graphe RDF, on peut le voir aussi comme un ensemble de triplets, donc on fait plein de petites affirmations, c'est plein de petites affirmations que lorsqu'on les met ensemble, on obtient un graphe. Et ce qui est bien, c'est que si pour une source de données, j'obtiens un graphe, pour une autre source de données, je récupère un graphe, ce qui est bien avec les graphes, c'est qu'on peut les mettre ensemble tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ça fusionne idéalement. Ce n'est pas le cas avec les tables. Les tables, si les deux tables hétérogènes, vous les mettez ensemble, ce n'est pas trivial. Donc pour moi, c'est le RDF, c'est ce qui le rend très très intéressant pour l'intégration de données, c'est que voilà, on va voir qu'on va écrire des mappings, on écrit juste des petits bouts d'informations, et après, pour mettre tout ça ensemble, si on utilise les mêmes identifiants, des choses comme ça, ça marche tout seul. C'est la puissance du graphe. Le graphe, c'est vraiment la structure pour faire du merge, pour fusionner. Mais ça, le graphe, c'est vraiment intéressant quand c'est virtuel, quand c'est matériel, c'est un peu plus problématique, mais voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez, donc là, j'ai un graphe où on voit deux personnes, donc il décrit deux personnes, donc un est un maître de conf, l'autre, on ne sait pas. Il y en a un qui donne les cours magistraux pour un cours sur la sécurité informatique, et l'autre donne les TP pour ce cours. Voilà. Donc, imaginez, donc, on a ce graphe-là, et on a, on a la requête Sparkle suivante. Donc, j'ai mes besoins d'informations, décrits de manière assez informelle. Donc là, je suis intéressé par le titre des cours, qui sont enseignés par un professeur, enfin, par un enseignant-chercheur. Et je veux connaître les... Donc, je voudrais récupérer donc, le nom du cours. Je voudrais récupérer le nom de famille du professeur. Donc ça, c'est obligatoire, c'est ce que je veux absolument dans mes résultats. Et, si possible, optionnellement, le prénom du professeur, de l'enseignant-chercheur. Ça, c'est facultatif. Donc voilà, si j'ai ces besoins d'informations, bah, dès lors que je connais le vocabulaire que je vais utiliser, je connais un peu la syntaxe Sparkle, je peux rapidement écrire une requête comme ça. Donc je décris une variable teacher pour la personne qui enseigne. Donc je dis que c'est un enseignant-chercheur. Donc je dis teacher en DFType professeur. Je dis qu'il enseigne un cours, donc je crée une variable pour cours. Et que cette personne a aussi un nom de famille, donc je récupère le nom de famille. Et après, pour le cours, je demande le titre. Donc voilà, donc ça, c'est tout ce qui est obligatoire. Et après, je rajoute un optional pour dire que je peux récupérer le prénom quand il est disponible. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Voilà, et puis je projette toutes ces variables-là. Donc d'après vous, si j'ai cette requête... Donc vous voyez que le passage de là à là n'est pas extraordinaire, non ? Entre le besoin d'information et puis écrire la requête Sparkle... Il n'y a pas de. Enfin, faut connaître la syntaxe, il faut connaître précisément le vocabulaire, mais il n'y a pas de notion de table, de normalisation, je ne sais quoi. Vous voyez, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On est beaucoup plus haut niveau. Ça vous va, ça, c'est clair. OK. Par contre, si j'ai cette requête-là, donc si vous regardez bien, et que j'interroge directement ce graphe RDF, sans rien de plus, d'après vous, quel serait le résultat ? Donc, c'est par rapport aux besoins d'information que j'avais présenté tout à l'heure, la requête Sparkle. Si je cherche à exécuter cette requête Sparkle sur ce graphe-là, qu'est-ce que je récupère comme résultat ? Pardon ? J'ai demandé pour l'intitulé du cours, puis les cours qui sont donnés par un ancien chercheur. Voilà. Alors, on voudrait récupérer lane à Information Security, parce que lane, c'est un maître de conférence, donc un ancien chercheur, security, mais là, on ne sait pas si c'est le cas. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Par contre, si j'exécute, j'ai aucun résultat. Voilà, c'est que en fait, ce que j'ai demandé, c'est un ancien chercheur. C'est pas écrit. Là, c'est écrit un maître de conférence. Et par contre, ce que j'ai demandé, c'était teach aussi. Et là on donne les cours magistraux et donne les TP. Mais c'est pas dit que c'était teach explicitement. Donc c'est un peu embêtant. Donc là, pour une requête comme ça, j'aurais aucune réponse. Donc il manque un composant. Et ce composant, c'est ce qu'on appelle l'ontologie. Voilà, donc ce que je peux définir, je peux décrire un peu mon vocabulaire, le vocabulaire du domaine. Donc, donc vous pouvez déjà spécifier tout le vocabulaire, tous les termes que vous utilisez, et après vous pouvez décrire les relations entre ces termes. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'un langage d'ontologie vous permet de faire, ce qu'on appelle les axiomes de T-box, pour ceux qui connaissent les logiques de description. Donc c'est des règles logiques. Donc typiquement ici, je vais dire qu'il y a un maître de conférence, c'est une sous-classe d'enseignant-chercheur. Donc quand je dis une chose comme ça, en utilisant le vocabulaire RDFS, en fait, je définis une règle logique qui fait que si jamais je trouve un fait qui dit que telle personne est la personne numéro 1 est un maître de conférence, dans ce cas, je peux en inférer le fait que c'est un enseignant-chercheur. Donc, en fait, je définis des règles pour ajouter des faits, pour ajouter des nœuds, pour rajouter des arcs dans mon graphe. Donc je peux décrire des choses comme des sous-classes. Donc je vais, en fait, on va avoir une hiérarchie de classes, ce qu'on utilise en pratique. Donc dire que voilà, un professeur, c'est un chercheur qui est un chercheur, qui est une personne, etc., etc. Donc on a, dans votre domaine, vous pouvez facilement avoir des hiérarchies, des taxonomies. Vous pouvez faire la même chose aussi avec les propriétés. Vous pouvez dire que voilà, bah, donner un cours magistral, c'est une spécialisation de la propriété enseignée. Donc on peut dire voilà, c'est une sous-propriété de enseigner. Et des choses qui sont aussi très très pratiques en pratique. Voilà, très, ouais, très pratique. Vous pouvez donner des domaines et des codomaines à vos propriétés. Donc, vous savez que toute personne qui enseigne est un enseignant. C'est, voilà, ça ne mange pas de pain, mais c'est bien de le dire. Comme ça, si, quand vous cherchez toutes les personnes qui enseignent, si vous voyez que bah, tous les enseignants, si vous voyez que cette personne enseigne, bah, même si ce n'est pas dit explicitement que c'était un enseignant, bah, vous pouvez en inférer que c'est un enseignant. Et la même chose, si quelque chose est enseigné, donc c'est la cible de Teach, bah, vous savez que c'est un cours, si on suppose que tout ce qui est enseigné est un cours. Donc ça, c'est des choses qui sont très pratiques. Et voilà, on peut, ça permet d'inférer plein de choses dans votre graphe RDF. Et si vous définissez ces règles-là, ben maintenant, vous allez avoir des réponses à votre requête Sparkle.
Est-ce que c'est possible de définir des règles qui sont incohérentes ?
C'est possible, mais c'est pas bien. Oui, bien, alors ça, oui, ça, évidemment, ça peut arriver. Alors, ce que je vais proposer, c'est des ontologies assez légères. Normalement, les incohérences ne sont pas très fréquentes. Il y a aussi moyen d'en détecter, en tout cas, détecter formellement. Donc, dans le vocabulaire que je vais vous proposer, donc, on a tout ça. On a ces quatre constructeurs qui sont les principaux, les plus utiles et les plus simples. Donc, en valeur en pratique, on utilise un profil qui s'appelle OL2QL. Donc, ce n'est pas juste OL en général. Si vous utilisez OL en général, c'est horriblement expressif. Et vous allez avoir oublié complètement la performance, même la faisabilité dans plein d'applications. Dès que vous avez beaucoup de données, vous savez, les données, quand vous en avez beaucoup, quand vous voulez faire des calculs dessus, il faut que les calculs soient légers. Parce que si vous passez déjà beaucoup de temps pour une seule entrée, si vous en avez des millions, voilà, évidemment, ça ne marche pas du tout. Donc, du coup, la complexité des inférences que vous allez faire dessus, il faut que ça soit léger pour que ça soit faisable. Donc, nous, ce qu'on supporte, d'autres fonctionnalités qui sont assez légères, qui ne rajoutent pas beaucoup de choses de plus. Les plus utiles, c'est celles que je vous ai présentées avant. Et notamment, on peut déclarer que des classes sont disjointes. Par exemple, je dis qu'un étudiant ne peut pas être un enseignant-chercheur. Donc, juste pour répondre à votre question, donc si je définis qu'un enseignant n'est pas un enseignant-chercheur, c'est deux classes disjointes, donc personne ne peut être membre des deux classes, et que j'observe que la même personne est membre des deux classes, là, j'ai le droit d'inférer le fait, non pas un nouveau triplet, mais le fait que mon graphe RDF est incohérent. Donc ça permet de débugger un peu en pratique, on va le voir. C'est un intérêt assez minime, parce que les gens, généralement, enfin, ce que les gens aiment bien définir, c'est tout ce qui est les axiomes, disons, positifs, qui vous permettent d'ajouter des choses, d'inférer de nouvelles choses. Par contre, tout ce qui est négatif, un peu feignant, donc ça, il y en a généralement très peu, pas suffisamment, donc et c'est possible de les mettre. Donc, faire attention avec OWL, si vous utilisez tout, c'est très expressif, mais là, ce que je vous présente, c'est les choses les plus simples. CMAS, il faut faire vraiment attention, ça on ne le supporte pas officiellement. Et donc, dans le système qu'on utilise, on supporte précisément ça. On prend donc les hiérarchies de classes et de propriétés, comme j'ai présenté tout à l'heure, ce qui a de plus important à mes yeux. Des propriétés inverses, on peut dire, voilà, si quelqu'un dit enseigne, c'est la propriété enseignée inverse de est enseigné par, voilà, c'est, ou parent-enfant, c'est deux propriétés inverses. Voilà, on peut avoir les dire que deux classes sont disjointes donc pour détecter des problèmes. Et on a des mécanismes plus avancés pour du raisonnement existentiel, mais c'est pas très important en pratique. C'est désactivé par défaut dans le top, mais si ça vous intéresse, il y a un exemple à toute fin du TP, un bonus. Donc, je pense pas qu'on y arrivera, mais voilà. Et surtout, donc, c'est le profil qu'on supporte, mais on supporte évidemment pas tout de OOL, quasiment une toute petite partie de OOL. Notamment, officiellement, on ne supporte pas des choses qui permettent de dire que telle entité est la même que telle autre, le same as. Parce que des fois, souvent, dans un jeu de données, donc, telle entité a tel identifiant, puis dans un autre jeu de données, elle a un autre identifiant. Donc c'est intéressant des fois de dire que c'est la même, donc du coup, on peut combiner les données des deux sources. Alors, officiellement, ce n'est pas supporté dans ce profil, mais on a d'autres mécanismes. Bon, c'est un peu théorique. On a aussi des façons de faire pour intégrer ces masses. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais en parler après coup. Voilà. Bon, il y a plein de types de raisonnements qu'on ne fait pas. Si vous ne connaissez pas OOL, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est des choses assez consensuelles, des hiérarchies de classes, de propriétés. Et c'est la très bonne propriété que pour toute requête Sparkle qui veut prendre en compte ces aspects-là, on est sûr de pouvoir la réécrire en une requête SQL. Donc c'est la propriété théorique qui fait que tout ça marche. Et ce profil-là a été vraiment conçu pour avoir ces propriétés théoriques. C'était fait à la base par des théoriciens. Voilà. Bon, c'était juste une... Donc, vous avez une petite idée donc, à quoi sert l'ontologie ? Ça parlait sur l'exemple de graphe. Ça permet d'augmenter le graphe, rajouter des choses au graphe, de telle sorte qu'on puisse plus facilement répondre à des questions un peu plus abstraites de plus haut niveau. Donc c'est utile pour l'utilisateur. Voilà. Et le dernier composant, qui est celui qui va sûrement vous intéresser le plus aujourd'hui, parce que dans l'UTP, c'est principalement écrire des mappings. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mapping ? Puisqu'il faut bien faire le lien entre RDF et le contenu de notre base de données. Donc ça, c'est en pratique, c'est ce qu'on manipule tout le temps. Donc voilà. Donc il y a un standard qui s'appelle R2RML. Je ne vais pas vous le présenter parce que c'est verbeux. Je n'aime pas beaucoup à l'utilisation. On a un autre format qui est compatible avec R2RML. On supporte les deux. Je vais présenter celui-là parce que c'est plus proche de la définition théorique qui, pour moi, est beaucoup plus claire. Donc, les mappings qu'on utilise, on appelle ça mapping GAV, ça c'est un détail technique. En fait, c'est composé d'une requête SQL sur la source de données. Donc là, c'est une requête très simple qui me demande récupère-moi les colonnes identifiant prénom et nom de la table student. Donc on désigne trois colonnes ici, c'est une requête SQL hyper simple. Et à partir de ces trois colonnes, pour chaque ligne qu'on récupère, pour chaque ligne, on va pouvoir créer ici trois triplets RDF. Donc à partir de la clé primaire, je vais pouvoir construire une URL. Donc maintenant, j'ai transformé mon identifiant local en un identifiant global. Vous voyez que l'identifiant global indique bien que ça vient de l'université 1 student, c'est un peu le nom de la table en quelque sorte. Donc je dis que voilà, j'ai ma partie sujet, pour mettre tous mes triplets, et après je vais pouvoir dire c'est un étudiant, après je vais pouvoir dire il a tel prénom, il a tel nom de famille, etc. Donc voilà, donc là je sais comment construire trois triplets RDF à partir d'une seule ligne de ma table student. Ça c'est une première assertion d'un mapping. Et évidemment, en général, on a plein d'assertions de mapping, et on peut, voilà, et on peut générer plein de triplets RDF comme ça. Et donc tout ça, ça forme un grand graphe ensemble. Et donc deux autres exemples de mapping. Ce que j'avais montré, c'était des mappings qui vont vers des littéraux, le nom et le prénom, donc des chaînes de caractères. Mais on peut aller vers un autre objet. Par exemple, on peut dire que telle personne enseigne tel cours. Voilà, et en récupérant de la table teaching l'identifiant de l'enseignant et l'identifiant du cours, on peut construire ce genre de correspondance. Et puis, quelque chose de très utile d'un point de vue documentation, donc notamment si après quelqu'un a créé une base de données et après part en retraite, si on a les mappings, on va peut-être être content, parce que si jamais il a écrit 1 pour professeur d'université, on aimerait bien savoir que 1 correspond à l'université. Donc une façon de le documenter, c'est écrire des mappings, et là c'est la documentation qui devient opérationnelle. C'est une façon de faire. Donc là je pense que, vous voyez que le code numéro 1 dans la table, c'est pas très explicite, par contre quand c'est dit quand c'est dit comme tel que c'est un enseignant, un professeur d'université, c'est beaucoup plus explicite. voilà, on peut se débat, on peut documenter tous les détails de tous les codes de bas niveau qui sont très courants dans les bases de données. Donc voilà, donc on écrit des mappings, donc ça c'est vous en tant que, pas utilisateur, mais d'administrateur de base de données typiquement, ou quelqu'un de cet endroit-là. Quelqu'un doit écrire les mappings pour décrire sa source de données. Et une fois qu'on a les mappings et l'ontologie et la base de données, bien entendu, et bien on a tout ce qu'il nous faut pour mettre en place un système. Donc dans le TP, on va sûr principalement écrire des mappings et on va voir ce que ça fait. Voilà, donc. Bon, ça, je vais pouvoir aller assez vite, mais vous voyez qu'avec une base de données et puis des mappings, vous avez obtenu un graphe. Donc si vous voulez, vous pouvez matérialiser ce graphe ou vous le traiter de manière virtuelle. Quand vous rajoutez l'ontologie en plus, qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Un graphe saturé, qui est un graphe beaucoup plus grand. Donc là, il ne paraît pas beaucoup plus grand, mais si par exemple vous avez une hiérarchie de concepts très, très grande, très profonde, et, vous pouvez, votre graphe saturé peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que votre graphe initial. Donc si vous avez par exemple des dizaines, si une hiérarchie a plus d'une dizaine de concepts verticaux, une dizaine d'ancêtres, le concept que vous avez utilisé, tout de suite, ça va générer 10 triplets. Pour un triplet que vous allez générer par vos mappings, paf, après saturation, il va y avoir 10 triplets dans le graphe RDF. Donc la saturation, ça peut faire exploser énormément la taille de votre base de données, si vous le matérialisez. Donc l'approche la plus courante, ce que vous avez sûrement plus entendu cette semaine, consiste à matérialiser le graphe. Par contre, généralement, ils ne mettent pas d'ontologie parce qu'ils ont déjà des problèmes de performance avant d'utiliser l'ontologie. Mais alors après, s'ils commencent à saturer leur base de données, ils vont avoir encore beaucoup plus de problèmes. Là, le graphe, c'est le contenu de la base de données. Le mapping, ça décrit la structure, effectivement. Mais pour le graphe, c'est le dump de la base de données. Si on le matérialise, c'est le dump de la base de données. Ça peut être gigantesque. Déjà, il peut être grand, parce que RDF, déjà, de base, c'est verbeux. Donc déjà, non matérialisé, non saturé, pardon, ça peut déjà être grand. Alors après, si vous saturez, vous avez une belle ontologie, le saturé peut être 100 fois plus grand. Ou même plus. Donc vous avez rapidement un problème dès lors que vous voulez matérialiser tout ça. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on fait juste de la réformulation de requête, donc on n'a pas besoin de matérialiser le graphe. Il se trouve que la technique concrète qu'on utilise, que moi je trouve très élégante, c'est qu'en fait, ce qu'on sature, c'est les mappings, mais pas le graphe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on utilise l'ontologie pour inférer de nouveaux mappings à partir des mappings qui ont été donnés par l'utilisateur. Parce que si vous voulez, vous pouvez tout faire à la main, vous pouvez écrire tous les mappings, je dis que telle personne, le code numéro 2, c'est un maître de conférence, rien ne m'interdit d'écrire à une personne que toute personne qui a le code numéro 2, c'est un ancien chercheur, toute personne qui a le code numéro 2, c'est une personne, etc. Et vous voyez que ça peut être automatisé. Et en fait, quand on fait interagir les mappings avec l'ontologie, en fait, l'ontologie sature les mappings. Lorsqu'on utilise le profil que je vous ai montré, c'est une des bonnes propriétés de notre profil. C'est quand les hiérarchies de classe et de propriété, c'est vraiment facile à manipuler et en fait ça permet de saturer des mappings.
L'inférence est faite lors de la résolution de la requête, de la réécriture.
Et la bonne propriété de la saturation mapping, c'est qu'on peut la faire en avant. Les premières techniques étaient juste, on la faisait au moment de la réécriture. Lorsqu'on ne saturait pas les mappings, on faisait simplement la réécriture de la requête Sparkle, directement au niveau Sparkle, et après on la traduisait chaque élément en SQL. Donc la partie inférence, la partie raisonnement était faite sur la requête Sparkle elle-même. Maintenant, non, on sature les mappings, et après, à l'exécution, on se contente d'utiliser le mapping saturé, on oublie l'ontologie. Donc en fait, tout le calcul est fait en amont, au moment du démarrage. Et donc à l'exécution, on ne perd pas de temps, quoi. Et on peut appliquer pas mal d'optimisations. Mais si vous voulez, j'ai un exemple concret. Je l'explique comme ça, c'est pas grave si vous ne connaissez pas trop. Si vous ne focalisez pas trop sur la syntaxe, sur la formalisation. Voilà. Donc imaginez que donc, j'ai une ontologie qui dit que les étudiants, les postdocs, les maîtres de conf et toutes les personnes qui enseignent sont des personnes. D'accord ? Ça semble une conclusion assez naturelle de l'ontologie. Donc ça, c'est juste écrit en une ligne. Donc voilà, c'est ce que je peux savoir de mon ontologie. Et après, en tant qu'utilisateur, j'ai écrit un certain nombre de mappings moi-même, manuellement. J'ai dit que toutes les personnes qui sont dans la table étudiant sont des étudiants, toutes les personnes avec le code numéro 9 dans la table académique sont des postdocs, avec le code numéro 2, ce sont des maîtres de conférences. Si j'avais dit que toutes les personnes dans la table académique font partie du personnel académique, et puis que j'avais dit que le personnel académique, ce sont aussi des personnes, et puis que toutes les personnes, pour toutes les entrées dans Teaching, je peux dire que les personnes qui sont référencées là enseignent. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit dans mes mappings. C'est présenté différemment, d'un point de vue un peu plus mathématique, mais ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et après, j'ai d'autres contraintes dans mon schéma, bon, on va y revenir là-dessus. En tout cas, avec ça, je peux saturer, je peux générer pas mal d'autres mappings. Donc c'est juste pour la partie personne. Vous voyez que là, j'ai aucun mapping qui parle directement de personne. En fait, j'obtiens 5 définitions pour personnes. Donc, je peux savoir que tous les étudiants de l'université O1 sont des personnes. Pareil, toutes les personnes présentes dans la table académique avec le code 9 sont des personnes, de même avec le code numéro 2, de même que toutes les personnes dans le secteur académique sont des personnes, et pareil dans la table teaching. Voilà. Donc là, on sature. Donc c'est exactement ça. Et après, on optimise. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'exécuter ça à l'exécution. Parce que là, il faudrait à l'exécution faire l'union de ces 5 sous-requêtes. Donc d'après vous, après optimisation, combien de sous-requêtes on peut obtenir ? 2, exactement. Parce que, alors... Parce qu'on a un beau schéma relationnel où on a des clés primaires, mais aussi des clés étrangères. Les clés étrangères, c'est très important pour nous aussi, parce que ça décrit bien vos données. Et là, il se trouve qu'on a une clé étrangère qui dit que toutes les personnes présentes dans la table teaching, en fait, doivent être présentes dans la table académique. Les 7 personnes qui sont référencées dans la table teaching doivent faire partie du personnel académique. Et dès lors, la première insertion, on ne peut rien en faire parce que c'est la seule qui parle des étudiants. Ah, il me manque des petits bouts, bon, c'est pas grave. Pareil, par contre, pour ces 4 autres, on peut la fusionner dans la table académique parce qu'on sait que, évidemment, c'est ce qu'on appelle du query containment en anglais, donc inclusion de requêtes, quelque chose comme ça. Évidemment que toutes les personnes présentes dans la table académique et satisfaisant la condition 9 font partie de toutes les personnes présentes dans la table académique. Et de même pour la condition numéro 2. Donc, ça et ça peut être réduit à ça. Donc 8 et 9, 7 et 9 peut être réduit à 9 et 8 et 9 peut être réduit à 9. Et de même, grâce à la clé étrangère, ce qui vient de la table teaching, 9 et 10 peut être réduit à 9. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on fait l'optimisation hors ligne, au démarrage, et on peut vraiment simplifier les mappings. Vous voyez que finalement, ce qu'on obtient comme mapping, c'est un mapping assez propre. Hein. Ce qui nous dit que quand on veut récupérer pour la source numéro 1, pour l'université, quand on veut récupérer toutes les personnes, il suffit de regarder dans la table student et il suffit de regarder dans la table académique. Et on aura tout. On aura tous les résultats. Vous voyez, là, on a vraiment les mappings. Quoi. Si on devait les écrire à la main, on les aurait sûrement écrits comme ça aussi. Donc là, ils ont été inférés automatiquement à partir de... Ce qu'on s'est contenté d'écrire, c'est des choses plus précises. Voilà, donc généralement, quand vous écrivez les mappings, vous cherchez à décrire le plus précisément vos données. Et après, pour toutes les généralités, elles sont déduites. Vous n'avez pas besoin de les expliciter. Vous voyez à peu près ? Vous comprenez l'intérêt ? Voilà, donc ça, c'est juste le détail technique pour... dire comment ça marche, parce que voilà, j'imagine... OL2QL, ouais, c'est avant tout de la substantion.
Donc.
Voilà, bon, ça c'est des choses assez mineures en fait. Ouais. Il se trouve que bah, sont mineures quand ils sont juste avec. C'est toujours la même chose. Donc la substantion plus ça, ça rend ces autres, ces extras pas dangereux. Mais par contre, si on les combine avec d'autres fonctionnalités, tout de suite on a des logiques hyper expressives. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble bien combiné. En fait, on ne peut plus rien rajouter sinon. C'est étudié comme tel. Sinon, la complexité est autre. Donc, après, on a le slide d'après. Bon. Donc, ouais, je vais revenir là-dessus. Donc, nos systèmes, comme je l'ai expliqué, comment ils fonctionnent, ils reçoivent une requête Sparkle en entrée. Éventuellement, on peut la réécrire si on veut faire du raisonnement existentiel. Mais ça, je ne l'ai pas évoqué. C'est désactivé par défaut. Donc. Pour nous, on démarre de là. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a les mappings, on peut utiliser une technologie qui s'appelle le dépliage, qui est une technique vraiment basique en base de données. En fait, donc, votre requête Sparkle, c'est plein de ce qu'on appelle des triple patterns, des bouts de requêtes qui sont sujets, verbes, compléments, avec éventuellement des variables. Pour chacun d'entre eux, par exemple, on demande une personne, voilà, P est une personne, et ça, je vais remplacer ce triplet par ces deux définitions. Donc, je vais faire une union de ces deux sous-requêtes. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'unfolding. On remplace les vues par leur définition. On peut voir tout ce qui est RDF, c'est des vues, en fait. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait. Et donc, techniquement, en fait, quand on fait ce unfolding, on passe d'une requête Sparkle à une requête SQL, déjà, directement. Parce que vu que les requêtes sources, on remplace les vues RDF par des requêtes SQL. Donc, après, on a juste un union avec des jointures, des jointures de requêtes SQL. Donc, on a une requête SQL. Donc, techniquement, vous avez une requête SQL, vous êtes content, vous pouvez la donner à la base de données. Sauf que si vous faites ça... Donc, en théorie, vous allez avoir les bons résultats. Par contre, la performance est assez catastrophique. Donc, parce que le problème, c'est que vous allez avoir une requête SQL qui ne ressemble pas du tout à une requête SQL habituelle, très, très, très artificielle, avec des unions, des jointures de trop haut niveau. Enfin, il y a beaucoup de redondance dans la requête SQL. Donc, en pratique, l'essentiel de notre travail dans un système comme OnTop, c'est d'optimiser ces requêtes. Ces requêtes SQL, parce que sans optimisation, elles peuvent pas être exécutées efficacement, elles sont généralement très 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 inefficaces. Voilà. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, le rôle de l'ontologie, c'était principalement de saturer les mappings, parce que ça c'est déjà expliqué. Et juste une petite remarque pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, bon, la plupart des gens sont habitués à utiliser Sparkle sans raisonnement du tout, donc avoir un peu de raisonnement qu'on l'a montré, ils sont déjà bien contents. Et on a quand même, d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, on a démontré avec des prototypes qu'on pouvait même aller au-delà de OL2QL. OL2QL, c'est en fait, on a la garantie théorique, dans tous les cas, ça va marcher. Après, si on fait un peu d'approximation, comme dans tous les systèmes concrets, on fait de l'approximation généralement, si on est prêt à pas pouvoir capturer tout le pouvoir expressif de l'ontologie, mais une grande partie de ce pouvoir expressif, dans plein d'anthologies, en fait, on capture tout, mais d'un point de vue théorique, pour un profil plus expressif, il n'y a pas de garantie qu'on va tout pouvoir le capturer entièrement. Donc, si on est prêt à faire l'approximation, on peut aller au-delà. Et ça, je pense que ça... Avoir des anthologies encore plus expressives, ça peut avoir quelques applications pratiques. Donc, voilà, OL2QL, c'est pas le dernier mot sur le sujet. C'est le fragment maximal qui est garanti, dans tous les cas, de pouvoir être traduit, mais on peut, en pratique... On peut aller plus loin. C'était juste une remarque, c'est pas très important. Voilà, et juste donc, quelques mots sur l'optimisation de requêtes, parce qu'en pratique, c'est un système comme OnTop, c'est ce qui fait, c'est sa tâche principale, c'est d'optimiser les requêtes SQL. Et c'est là où il y a plein de choses à faire. Donc on va avoir une requête SQL qui puisse être exécutée efficacement, c'est-à-dire qui correspond à une requête qu'un humain aurait écrit, un expert aurait écrit, et que le planificateur va savoir bien planifier, parce que sinon, ce qui reçoit sans optimisation, c'est une requête à laquelle il ne s'attend pas. Donc les planificateurs de base de données ne savent pas gérer ces requêtes-là. Elles sont beaucoup trop artificielles pour eux. Donc ce qu'on fait, on utilise le type de technique, on fait des optimisations, ce qu'on appelle des optimisations structurelles, c'est-à-dire qu'on change la structure de la requête. On n'a pas besoin de plus d'informations, je regarde juste la requête et on sait automatiquement par rapport à l'algèbre comment changer un peu sa structure. Notamment, on passe principalement d'une jointure d'union. C'est ce qu'on fait de l'unfolding. Pour chaque, par exemple pour personne, on peut avoir une union. Et après, entre les triplets, on a des jointures. Donc on a des jointures tout en haut de notre requête et on a des unions en bas. Ça, en pratique, c'est souvent pas bon d'un point de performance. En plus, on fait des jointures sur des URL, donc pas sur des clés primaires. Donc, du coup, les bases de données ne sont pas efficaces là-dessus. Donc ce qu'on fait, on cherche à inverser cette logique-là. On veut plutôt avoir une union de jointures. On a plein de sous-requêtes, mais qui font des jointures sur des clés primaires efficacement. Et en fait, en inversant ça, il y a plein de combinaisons qu'on peut éliminer parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes templates, les mêmes patrons d'URI. Donc voilà, c'est les premières étapes qu'on fait. Et l'étape la plus critique, c'est celle d'après. C'est celle où on a fait ce qu'on appelle les optimisations sémantiques. Alors, optimisation sémantique, c'est un terme de base de données classique. Hein, ça n'a rien à voir avec le sémantique web. En fait, on utilise les contraintes de la base de données. Donc tout ce qui est clé primaire, clé étrangère. Donc, des fois, ça embête les utilisateurs, c'est clé primaire, les clés étrangères, mais pour nous, c'est essentiel. Parce que quand on a une clé primaire, par exemple... Parce que c'est ce qui est très naturel dans les bases données. Par exemple, imaginez que je veux récupérer le nom et le prénom d'une personne. Et il se trouve que donc le nom et le prénom viennent de la même table. Le fait que je sache qu'il y a une clé primaire avec l'identifiant de la personne, ça me permet de... Si j'ai une jointure entre cette table pour récupérer le prénom avec cette même table pour la même clé primaire pour récupérer le nom de famille... Cette jointure, c'est une auto-jointure, je peux l'éliminer parce que je sais que le nom et le prénom vont toujours venir de la même ligne. Donc pour l'un et l'autre, il n'y aura qu'une seule combinaison possible. Donc il y a plein de jointures un peu artificielles qui viennent de Sparkle, parce que dans Sparkle, comme tout est atomisé, il y a plein de jointures partout. Sauf que les jointures effectives qu'on a besoin de faire dans notre quête, en pratique, sont beaucoup moins nombreuses. Donc il y a plein de jointures éliminées comme ça. Il peut aussi y avoir des unions éliminées. Voilà. Et donc c'était pour vous dire que toutes ces contraintes-là, donc les clés primaires, les clés étrangères, ce genre de choses, pour nous, c'est pas optionnel, hein, c'est indispensable. Si vous en manque, vous allez peut-être avoir des problèmes de performance. Par contre, si vous avez toutes, on peut vraiment, vraiment optimiser beaucoup nos requêtes. Parce que notre objectif, ici, c'est vraiment de répondre à... de récupérer tous les résultats, d'être complet. D'être complet et correct. On vise la complétude et la rectitude dans nos réponses. Donc toute combinaison possible qui pourrait mettre un autre résultat, on est obligé de la prendre en compte. Donc c'est vraiment important pour nous de savoir qu'on a des contraintes d'intégrité, ça nous permet de simplifier énormément les requêtes, sinon on a des risques d'explosion combinatoire. Voilà, on a quasiment terminé. C'est juste pour vous donner quelques petites informations technique sur qu'est-ce que c'est qu'ONTAP. Donc, notre système s'appelle ONTAP, donc c'est un logiciel libre, c'est sous la licence Apache 2. Donc la version qu'on va utiliser, c'est la 1.18, c'est la dernière qui a été, c'est une version qui a un peu plus d'un an. Donc il y aura bientôt une version numéro 3, sur laquelle on a pas mal travaillé. C'est déjà un projet qui a déjà 7 ans, hein, donc c'est pas juste un prototype de recherche, on n'en est plus là depuis bien longtemps. On a une belle équipe, on a une équipe de pas mal de personnes à travailler un peu dessus, donc pas tous à plein temps, bien entendu, mais pour donner une idée, voilà, après l'équipe actuellement, donc, toutes ces personnes-là sont en Bolzano, donc tous ne sont pas des développeurs, mais une bonne partie développe un petit peu. Voilà, une petite équipe internationale. Donc on supporte plein de bases de données, comme les principales en tout cas, comme Oracle et compagnie. On est bien intégré dans l'écosystème sémantique, donc on supporte, si vous utilisez RDF4J, on peut l'utiliser. On a une extension de protégé qu'on va utiliser tout à l'heure. Et puis il y a déjà des produits, donc nous on a encore une équipe de recherche, mais il y a des industriels qui l'utilisent déjà dans leurs produits. Hein. C'est Apache, donc c'est facile à intégrer. Notamment, il y a Stardog. Dans la version 4, ils l'ont intégré. Dans leur toute nouvelle version, la version 5, ils ont commencé à réimplémenter ces fonctionnalités pour les graphes virtuels. Mais je crois qu'ils l'ont toujours, ils ont toujours en top derrière, au cas où, pour comparer, parce que fonctionnellement, ils ne sont pas encore équivalents. Puis voilà, il y a deux entreprises qui les ont intégrées en Allemagne, principalement. Donc on travaillait sur un projet qui s'appelait le projet optique, où nos utilisateurs utilisaient directement une interface graphique. Ils n'utilisaient pas directement en top, mais c'était indirect. Donc vous voyez le cycle, c'est qu'ils utilisent une interface graphique qui va générer une requête Sparkle, qui après va être traduite en requête SQL, qui va être... On va récupérer les résultats de la requête SQL et après passer au niveau Sparkle. Je pense que vous l'avez déjà compris, c'était le cycle habituel. Et malheureusement, donc on avait une belle démo avant, qui à mon avis était... que j'aimais beaucoup présenter pour des néophytes. Dans ce projet-là, un éditeur visuel a été développé pour permettre aux utilisateurs de ne pas écrire de Sparkle eux-mêmes, mais utiliser une interface graphique pour générer une requête Sparkle. Donc par exemple, dans cet exemple-là, vous aviez une liste de concepts, par exemple les produits, les locations, les fournisseurs, dans un jeu de données. Donc vous pouvez dire, je suis intéressé par un produit, vous cliquez sur le produit, vous arrivez là, vous allez avoir un certain nombre d'attributs. Donc, par exemple, je veux récupérer le nom du produit, donc vous cliquez sur Name. Et après, pour ce produit, je veux connaître son fournisseur, donc qui apparaîtrait dans la liste de gauche, vous cliquez sur Fournisseur, vous pouvez récupérer le nom de la compagnie, etc. Et comme ça, vous pouvez écrire une requête Sparkle en quelques clics. Vous pouvez même dire, pour des champs, vous pouvez mettre des filtres en mettant des conditions. Et donc voilà, vous avez une requête graphique qui apparaît comme ça au-dessus. Et vous cliquez sur exécuter, ça s'exécute. Si vous cliquez sur un bouton Sparkle, vous voyez la requête Sparkle qui correspond à votre système. Oui. Malheureusement, ce système-là n'est plus en ligne, mais bon. C'était développé plutôt par nos collègues à Oslo. Donc j'espère qu'ils vont remettre quelque chose en ligne, ces quatre, mais bon. Là, le projet est fini. Apparemment, l'entreprise allemande FluidOps n'est pas très intéressée par maintenir la démo en ligne. Mais voilà. Moi, ça me permettait, par exemple, d'écrire une requête Sparkle en 30 secondes, plus rapidement qu'en l'écrivant manuellement, en fait, et sans risque d'erreur de syntaxe, et faire un petit tag, se tromper dans les URL ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment parlant. Et notamment, ce qui est très intéressant dans ce jeu de données, c'est que je peux poser des questions à la base de données. J'ai jamais vu le schéma de la base de données. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il est. Et même, je ne savais même pas de quoi parler les données. Donc, j'ai vu l'interface, il y a les produits. Bon. Et très rapidement, j'ai pu découvrir la base de données comme ça, juste avec une interface graphique. Donc je pense que là, il y a un gros potentiel d'application dans ce genre de choses. C'est très prometteur. Là, c'est juste des prototypes pour l'instant, mais... Voilà. C'est un peu long, mais voilà. Voilà mon message, on va dire que écrire des requêtes SQL à la main, ça peut rapidement devenir pénible. Donc j'espère que vous avez déjà une petite intuition que l'approche OBDA peut être pertinente pour résoudre ce cas de problème. Et puis pour ceux que ça intéresse, on est une équipe de recherche, donc vraiment pas fini sur l'OBDA, il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai pas mal travaillé ces derniers temps sur intégrer d'autres sources de données que les bases de données relationnelles, donc par exemple MongoDB, qui est une façon d'intégrer des données imbriquées, des JSON par exemple. Donc, ce qu'on a trouvé comme résultat devrait à peu près marcher pour XML, mais on n'a pas d'expérience pour l'instant XML. En tout cas, c'est assez encourageant. Puis, j'ai des collègues qui travaillent plus sur les aspects streaming, raisonnement temporel. On va bientôt avoir une personne qui va travailler sur les aspects géospatiaux, donc je sais que ça intéresse quelques-uns. Et puis il y a des gens en Grèce qui vont travailler là-dessus, donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à faire, et puis après il y a plein de choses en interne, comme les optionnels. Il nous manque des fonctionnalités vraiment basiques, comme l'agrégation, faire des sommes, des moyennes, des choses comme ça. Il faut absolument qu'on les rajoute, parce qu'il y a tout un cas d'usage qui va être basé sur la partie analytique des données. Hein. Ça, je je pense que ce genre de technologies sont très pertinentes pour l'analytique. Il faut qu'on rajoute les fonctionnalités et puis supporter un peu plus d'algèbre. Mais voilà. Et même déjà avec ce qu'on a, c'est déjà très utile. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, donc, la dernière version publiée sur GitHub, la nouvelle version, pas encore, mais ça y sera bientôt. Et puis voilà, on a plein d'informations en ligne. Voilà, bon.